Prague. Au moment où Saïd voit le jour à la maternité de la Croix-Rousse, ma mère arpente les couloirs de l'ancien centre de détention de la Statní bezpečnost, le service de renseignement tchécoslovaque. Une prison édifiée au cœur de Prague dans un couvent catholique que les communistes ont réquisitionné en 1948 après leur prise de pouvoir. Les deux mondes de Saïd et de ma mère ne sont pas encore entrés en collision, mais les rouages de la mécanique sont silencieusement enclenchés. 1000 kilomètres les séparent. Ma mère a alors 35 ans. Elle a quitté la France pour s'installer en République tchèque avec mon père, ma sœur de 8 ans et moi qui n'ai qu'un an. Mon père travaille pour une société américaine spécialisée dans l'installation d'ordinateurs et de systèmes informatiques pour entreprises. La boîte l'a envoyé à la conquête de cette Europe centrale arriérée par 40 ans de communisme. Un terrain vierge ouvert aux promesses des hommes d'affaires qui débarquent du monde libre pour électrifier le pays, brancher des microprocesseurs et remplir les caisses. Mes parents font partie de cette première vague d'expatriés occidentaux, d'expats, comme on commence à dire, un terme qui deviendra presque une identité de classe. Ma mère est architecte et a déjà participé à la construction de plusieurs bâtiments publics en France. Un début de carrière classique que cette expatriation tchèque vise à accélérer. À son arrivée à Prague, elle se met au service de l'école française, une petite structure qui cherche à agrandir ses locaux en prévision des légions de Français à venir. Cette jeune architecte est une aubaine pour l'ambitieux ambassadeur qui a pour mission d'accompagner la modernisation du pays et d'y installer la France en position de pays ami. Pendant des mois, ma mère va tailler son chemin dans la bureaucratie tchèque et arpenter Prague pour dénicher le bâtiment qui deviendra le futur lycée français. Ses recherches la mènent dans ce sinistre centre de détention, vidé de ses séides, dont elle transformera les cellules en salles de classe. La décennie 90 s'annonce radieuse. L'URSS s'est écroulée et l'Europe centrale finit de se réorganiser. La Tchécoslovaquie vient de se disloquer pacifiquement en deux pays distincts, la République tchèque et la Slovaquie. Une séparation que diplomates et journalistes surnomment le divorce de velours. Ébahi qu'elle se déroule sans violence ni contestation. L'époque, pense-t-on, est au triomphe du droit sur la violence et à la mort des impérialismes. La République tchèque est dirigée par un dramaturge charismatique, Václav Havel, et mes parents ont l'impression de vivre l'histoire en direct. Pour une bouchée de pain, ils emménagent dans un immense appartement à moulures appartenant à un certain Bursik, dont l'histoire résume à elle seule l'esprit du temps. Dissident de la dernière heure, ce trentenaire est de ces Tchèques pour qui la décommunisation n'a pas signé seulement la chute d'un régime policier, mais aussi le début d'un enrichissement personnel considérable. Par la grâce d'une nouvelle loi restituant aux Tchèques les biens spoliés par les communistes, Bursik découvre l'étendue des propriétés de ses ancêtres et se retrouve ainsi, du jour au lendemain, propriétaire de plusieurs hôtels particuliers qu'il loue à la découpe aux Européens qui débarquent chargés de dollars. Parmi les locataires de son nouveau parc immobilier, il y a ce couple de jeunes Français qui passent ses soirées à plancher sur la construction du lycée français. Ma mère embarque mon père dans le projet. Lui s'occupe des financements, elle en est le maître d'œuvre et convainc l'ambassadeur de procéder au lobbying nécessaire auprès de Paris. La première pierre est posée par Jacques Chirac, qui remercie chaleureusement ma mère dans son discours. Flûte en main, mes parents jubilent. Leur nouvelle vie tchèque incarne tout ce que les années 90 pouvaient promettre de meilleur, leur ascension calquant parfaitement le zeitgeist libéral qui infuse les esprits de l'époque. Ils s'enorgueillissent de ne plus avoir d'attache terrienne et se revendiquent mondialistes. Le terme n'est pas encore l'insulte qu'il deviendra plus tard. Dans cette ville baroque qui se délivre du séquestre russe, où une place d'opéra coûte moins cher qu'un billet de cinéma et où des centaines de Tchèques font la queue pour l'ouverture du premier McDonald's. Dans les supermarchés, les insipides emballages soviétiques sont peu à peu remplacés par les couleurs d'Amérique. Entre les statues de saints patrons alignées sur le pont Charles, Tom Cruise devient la première star américaine à tourner un film dans ce pays neuf. Mission impossible. Et sa présence en ville anime les conversations pendant plusieurs semaines. À chacune de leurs vacances, mes parents rapportent ces anecdotes heureuses du monde d'hier qui annonce demain. Sur les photos des années pragoises, ma mère porte du mascara sur ses yeux en amande et une mèche de cheveux noirs lui balaie le front. Son regard, qui perce l'objectif, baigne dans la certitude d'un avenir sécurisé par l'amour des siens. Et 13 ans après sa mort, l'on se surprend toujours à essayer d'y déceler la loi qui préside à son destin. Aujourd'hui, l'évidence rétrospective montre un regard dont aucun artifice ne parvient à dissimuler tout à fait la mélancolie. Un regard qui redoute la réserve d'un avenir qui se retournera contre elle et trouvera son bras armé le moment venu. Sur une autre photo, on la voit accroupie à côté de moi, qui déambule en salopette sur les pavés de la place Venceslas. Au moment où ces photos sont prises, Saïd partage des moments similaires avec sa mère dans les rues de Lyon. Lui aussi petit dernier cajolé, sans doute avec le même style criard des années 90. Deux familles qui évoluent dans deux univers opposés et pour lesquelles le compte à rebours du drame est enclenché. Pour ma mère, s'établir à Prague est une discrète rébellion, une petite revanche sur les déterminismes d'une enfance conventionnelle dans sa famille catholique, où le camp d'Iraton mettait en joue toute volonté de rupture dans un vertige d'incompréhension. Déménager à Prague? Avec votre fils encore bébé? Vous connaissez le taux de bronchiolite infantile lié à la pollution industrielle? Sa famille est ce que l'on a coutume d'appeler une famille conformiste, ce qui ne signifie pas qu'elle ne laisse aucune place à l'excentricité, mais plutôt que les parents envisagent pour leurs enfants des vies fléchées par les habitudes. Pour comprendre d'où vient ma mère, il faut se figurer une photo, celle de son grand-père, un certain Albert de Seguin de Régnès, un martyr de la résistance à double particule dont le portrait en uniforme, regard dur, moustache fine et béret tarte ornent les salons de toutes les branches familiales. L'homme qu'on dit à la rigidité de fer dirigeait le 6e bataillon de chasseurs alpins basé à Grenoble qu'il fut forcé de dissoudre un matin de novembre 1942. « La seule fois de ma vie où je l'ai vu pleurer, » répétait ma grand-mère, « quand les Allemands achevèrent d'engloutir la France. » Il entra alors en résistance et prit la tête de l'armée secrète de l'Isère, puis du maquis du Vercors, en profitant de la couverture que lui procurait sa fonction à l'Office des eaux et forêts. Une double vie qui prit fin lorsqu'un des siens retourna sa veste et le dénonça à l'occupant. Les gabardines en cuir de la CIPO SD l'arrêtèrent un mois avant le débarquement pour l'assassiner, suppose-t-on aujourd'hui, quelque part entre la prison lyonnaise de Montluc et les bords de l'Isère. Son corps ne fut jamais retrouvé. Son dénonciateur, si. Il fut abattu par les maquisards en août 1944. C'est sous le joug écrasant, quasi christique, de cette photo que les enfances de ma mère, de ses sœurs et de ses cousins se sont déployées. J'évoque cette histoire parce qu'elle plante le décor familial et parce que mes recherches m'ont appris que le père de Saïd avait lui aussi longuement servi dans l'armée française. C'est le seul fil qui relie sa famille à la mienne avant la collision de 2012. D'après le peu d'informations dont je dispose, je sais qu'il a servi en Indochine, un champ de bataille sur lequel la France envoyait des colonisés se battre contre d'autres colonisés afin de sauver son empire en perdition. Les historiens estiment que 150 000 soldats maghrébins ont été envoyés pour y combattre l'insurrection nationaliste de 1947 à 1954. Les deux hommes, le père de Saïd et mon arrière-grand-père, ne se sont jamais connus. Ils ne venaient pas du même monde, mais ils parlaient le même langage, celui de l'armée. Si les Allemands ne l'avaient pas assassiné, peut-être mon aïeul aurait-il côtoyé le père de Saïd dans quelques garnisons, sur un champ de bataille, ou lors d'une cérémonie militaire à Lyon ou à Grenoble. Lui, le commandant Aristo décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur, aurait pu partager le clairon avec ce jeune soldat maghrébin, prêt à tout pour s'intégrer par le travail, malgré les brimades racistes de la France des années 50. L'armée est un des rares carrefours où nos deux familles, qui écrivaient leur destin parallèle, auraient pu se croiser. Ma grand-mère a 14 ans quand son père disparaît. Après la guerre, elle se construit en l'absence de ce parent que les autorités ont érigé en héros. De 1953 à 1971, elle fera 7 enfants. Tous élevés dans le culte dominical, les sacrements et les bonnes manières. Son mari, bon vivant et débonnaire, est ingénieur industriel, lit la presse catholique et le Magnificat avant de dormir. Le dimanche, tout le monde va à la messe. Ma grand-mère n'a jamais travaillé, préférant se consacrer à sa progéniture. C'est elle qui tartine les toasts quand la famille reçoit, répond au téléphone dans l'entrée et consacre son peu de temps libre à des œuvres caritatives. Ma mère naît à Grenoble en 57. Ses premières années jusqu'à l'école primaire se déroulent à Saint-Égrève, une petite commune pavillonnaire de la banlieue grenobloise. Bien loin du jeune Marocain qui, au même moment, porteur de rêves et de projets, arrive à Lyon, à seulement une centaine de kilomètres de là. Mais de ces Maghrébins qui débarquent, personne ne parle dans la famille. Sauf ma grand-mère qui, dans le cadre d'une de ses nombreuses activités bénévoles, travaille en milieu pénitentiaire dans la région lyonnaise. Chaque semaine, elle tient des permanences du Secours catholique où elle offre café et réconfort aux mères de famille, parfois maghrébines, qui attendent leur tour pour voir leur fils au parloir. Elle participe à plusieurs mesures de soutien aux prisonniers, des rencontres dont l'objectif est de casser leur solitude, et des ateliers de sous-traitance visant à leur faire gagner le pécule suffisant pour rembourser leurs dettes. La famille s'installe à Versailles en 1975. Ce n'est pas le Versailles à serre-tête et cabans bleu marine que l'on imagine. La troupe tient plutôt de la grande Smala bordélique et désargentée, administrée comme une colonie, dont chaque enfant s'émancipera à sa manière. Régulièrement, la famille se réunit pour de généreuses cousinades organisées par un grand-oncle sur le domaine familial. L'occasion pour la fratrie de se consoler que le destin les ait posés sur la branche la plus déconnante de l'arbre. En se bidonnant de l'accent à patates chaudes des grandes-tantes et de l'air compassé de ses vagues cousins qui s'enflent de posséder des titres et des manières. Toujours la photo de l'aïeul résistant, le héros du Vercors au regard sévère, veille sur les évolutions de chacun. Ma grand-mère grandit dans cette famille qui commence à se décorseter. Dans cette France du yéyé, des nappes à motifs, des pulls qui grattent et du plein emploi. Dans le Versailles des années 70, la moto, avant d'être l'arme qui la tuera, est pour elle et celle de sa génération l'emblème de la liberté et des premiers émois. Ma mère rencontre mon père en 1976 et l'épouse 3 ans plus tard. La relation avec ce fils unique de la classe moyenne la libère de son milieu et lui fait découvrir les frissons d'une existence sans protocole. Elle aura toujours cette drôle de phrase « Maintenant que je suis marié, je fais ce que je veux ». Preuve en est, à la fin des années 70, quand mes parents surprennent leurs proches en partant, presque sur un coup de tête, s'installer à Pondichéry, un ancien comptoir colonial français dans le sud de l'Inde. La région attire alors des milliers d'idéalistes et de babacools en rupture de ban avec la société de consommation. Un gourou local y a fondé la cité d'Auroville, un village utopique sorti de la terre ocre de l'arrière-pays tamoul, qui incarne le rêve d'une société universelle, sans monnaie ni classe sociale, et qui connaîtra le destin de toutes les utopies spirituelles d'après-guerre en devenant une curiosité touristique, à laquelle s'accrochent encore aujourd'hui quelques mohicans en sandales et aux cheveux poivre et sel. Mes parents ne suivent pas la vogue New Age d'Auroville, mais s'installent à Pondichéry, la ville voisine, où ils reprennent un petit orphelinat et imaginent une vie hors des sentiers battus. Ils décident finalement de rentrer en France au bout d'un an, avant de secouer terre et ciel pour y faire venir des pondichériens, à une époque où l'immigration ne figure pas en tête de liste des sujets de préoccupation des Français. Jusqu'en 1962, les Indiens nés à Pondichéry pouvaient en effet opter pour la nationalité française qui leur était automatiquement accordée. À Paris, ma mère termine ses études d'architecture et vit chichement avec mon père. Ils s'installent pour quelques années dans le sud de la France, mènent une vie de maison avec jardin, jusqu'à ce déménagement à Prague qui tirera définitivement un trait sur leur rêve de bohème. Après Prague, les expatriations successives les mènent à Milan, à Nice, puis à Londres. En parallèle de cette trajectoire, les parents de Saïd en construisent une autre, presque en miroir inversé. Quand ma mère fuit l'enracinement séculaire de sa famille en multipliant les déménagements, mue par la croyance de l'époque selon laquelle la réalisation de soi passe nécessairement par le déracinement géographique, les parents de Saïd, eux, qui furent arrachés à leur Maroc originel, s'établissent fermement à la Croix-Rousse dès les années 60, un quartier où grandissent tous leurs enfants. Deux histoires françaises qui racontent chacune leur version de la même époque. Pour l'une, l'émancipation par la prise d'autonomie et les nouveaux départs, pour l'autre, l'intégration culturelle par le travail et l'enracinement. Mes parents poursuivent leur vie sans attache, toujours du côté privilégié de la mondialisation. Celui qui met ses enfants dans des lycées français, pimente son phrasé d'anglicisme et qui vote à gauche, évidemment. Ils sont de ceux qui hurlent d'effroi le soir du 21 avril 2002, s'indignent des discours sécuritaires, se disent consternés par l'inculture de Sarkozy et voit dans son « Bande de racailles » lâché sur la dalle d'Argenteuil en 2005 le comble de la vulgarité et de l'excitation des patients tristes. 2005 justement. Mes parents l'ignorent, mais tout va basculer cette année-là, quand ils décident de quitter Londres pour emménager à Lyon, à la suite d'une nouvelle affectation professionnelle de mon père. Première étape de l'engrenage d'une série de petites décisions anodines qui, 7 ans plus tard, placeront ma mère sur le chemin mortel du gamin de la Croix-Rousse, qui, à ce moment-là, n'est qu'un jeune adolescent, n'a pas de moustache ni de casier judiciaire, et va lentement commencer à se déscolariser.